est 19h30 sur RFI et tout de suite la suite de nos programmes.
RFI Soir.
Et RFI Soir, c'est avec vous Guillaume Ouattara, bonsoir.
Bonsoir Véronique, bonsoir à tous. À la une de cette demi-heure d'information à Mayotte, une semaine après le passage du cyclone Chido, l'heure est encore au secours. 35 morts, 2500 blessés recensés, mais le bilan pourrait être bien plus lourd. Le gouvernement comorien voisin a instauré un comité de gestion de crise, précision dans un instant. Au Mozambique, les résultats de la présidentielle validés ce lundi par le Conseil constitutionnel, des résultats contestés depuis deux mois par Venancio Mondlane, l'opposant, et depuis les échauffourées dans le pays ont fait au moins 130 morts. La chanteuse malienne Rokia Traoré à nouveau devant la justice belge. Elle est accusée de non-représentation d'enfants. Elle conteste une condamnation liée à la garde de sa fille en détention depuis six mois. Elle espère un nouveau procès. Nous étions ce matin au palais de justice de Bruxelles. Une semaine après le sommet de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger accusent la France d'ingérence et rejettent la transition de six mois annoncée avant leur départ de l'institution. Et puis en cette fin d'année, nous marquerons un retour sur une année sportive marquée par l'exploit d'Iman Relief au JO de Paris. À 25 ans, la boxeuse algérienne médaillée d'or est devenue une icône, une victoire qui dépasse largement le cadre sportif. On y reviendra. Une semaine après le passage meurtrier du cyclone Chido, les secours toujours à l'œuvre à Mayotte pour retrouver les disparus et rétablir l'eau, l'électricité et les communications. 35 morts et quelques 2500 blessés ont été recensés par le ministère de l'Intérieur français. Mais il est vraisemblable qu'il y ait beaucoup plus de victimes selon les autorités locales. Critiqué pour sa lenteur d'action, le gouvernement comorien voisin a réagi en instaurant un comité national de gestion de l'après-crise. Il est composé de représentants de l'État et de la société civile. Ce comité a un financement de l'État comorien et international. Les précisions d'Abdallah Mzebaba.
Le comité national de gestion de l'après-crise se concentre en priorité sur Mayotte, où les pertes humaines et les destructions matérielles causées par le cyclone Chido sont particulièrement sévères. Il a pour mission de mettre en place un plan d'assistance spécifique pour l'île et de soutenir les autres régions comoriennes les plus touchées économiquement. Selon Mahamoud Salim Hafi, secrétaire général adjoint du gouvernement, des discussions sont menées avec le Quai d'Orsay pour faciliter le transport des produits recueillis vers Mayotte depuis en juin. Les frais de ces acheminements sont pris en charge par le gouvernement comorien. La mise en place du comité, composé de 12 personnes, a été bien accueillie par la société civile qui reste pleinement mobilisée pour venir en aide aux victimes. Les collectes de produits de première nécessité sont organisées en collaboration avec le gouvernement comorien. Après l'envoi d'une première cargaison d'eau, 27 tonnes de riz et 10 conteneurs d'eau, soit 20 000 packs supplémentaires, devraient bientôt être expédiés vers Mayotte pour répondre aux besoins urgents de la population. Abdallah Mzebaba Moroni, RFI.
En France, jour de deuil national ce lundi en soutien aux victimes du cyclone. À 11h ce matin, une minute de silence en mémoire des victimes a été respectée sur l'ensemble du territoire. C'est le cas notamment à Saint-Denis, au nord de Paris, où Baptiste Coulon a assisté à un rassemblement d'une centaine de personnes devant la mairie.
Mesdames et messieurs, en hommage aux victimes à Mayotte, je vous prie de bien vouloir respecter une minute de silence.
11h pile. Après une brève allocution, les habitants se figent en silence. C'est aussi le cas des élus, vêtus de leurs écharpes tricolores sur le perron de l'hôtel de ville. De quelques pompiers de Paris également, alignés au garde à vous en soutien à leurs collègues mobilisés à 8000 km d'ici. Moment de recueillement et de solidarité aussi, auquel Saint-Denis se devait de répondre présent, estime Armand, un habitant.
C'est une ville cosmopolite avec tous les gens qui ont la main sur le cœur, qui sont un peu plutôt affecté par tout ce qui peut se passer, non seulement dans le territoire outre-mer, mais aussi à la métropole. Ils ont toujours eu répondu présent, que ce soit aux grands événements ou bien aux événements malheureux, auprès de tous ceux qui ont besoin, les nécessités, quoi. Donc, en gros, c'est vraiment important pour la population de répondre présent à ce moment un peu plutôt douloureux.
Épreuve que la ville répond présent, se montre solidaire. Une collecte de nourriture et de produits d'hygiène a débuté ce matin à Saint-Denis. Des cartons pour certains déjà remplis de vivres, mais aussi de fournitures scolaires, prêts à partir en container en direction de Mayotte.
Baptiste Coulon pour RFI. Au Mozambique, le bilan du passage du cyclone Chido s'alourdit. Les autorités parlent désormais de 120 morts et de 900 blessés. Le Mozambique, où après une journée d'attente anxieuse, le Conseil constitutionnel a finalement ratifié la victoire du Frelimo lors des élections du 9 octobre dernier. Daniel Chapo, le candidat du parti au pouvoir depuis l'indépendance de 1975, a été déclaré vainqueur avec plus de 65% des voix. Mais l'opposant Venancio Mondlane conteste depuis plus de 2 mois les résultats de ces élections générales marquées par de nombreuses irrégularités. Et depuis, au moins 130 personnes ont trouvé la mort en marge du vaste mouvement de protestation qui agite le Mozambique. Les explications de Lisa Fabian.
Ni la contestation populaire ni la dénonciation des irrégularités n'auront permis d'infléchir le résultat des urnes. Le candidat du Frelimo, Daniel Chapo, a été déclaré vainqueur de la présidentielle mozambicaine avec 65,17% des voix. Un chiffre revu légèrement à la baisse par rapport aux 71% initialement annoncés par la commission électorale. L'opposant Venancio Mondlane récolte quant à lui 24,19% des suffrages selon la Cour constitutionnelle. La validation définitive de ces résultats risque bien de relancer la contestation populaire qui embrase le Mozambique depuis 2 mois. Ce lundi, la capitale Maputo était quasiment vide, certaines routes fermées par des barricades, d'autres axes contrôlés par les forces de sécurité. L'opposant en exil, Venancio Mondlane, avait déjà appelé à un nouveau soulèvement populaire d'une ampleur jamais vue en cas de victoire du Frelimo, alors que le nouveau président, Daniel Chapo, a appelé ce lundi les Mozambiques à travailler ensemble.
Un éclairage signé Lisa Fabian pour RFI. Sur le volet judiciaire, la chanteuse malienne Rokia Traoré, en détention en Europe depuis maintenant 6 mois, était ce matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Un conflit l'oppose depuis 2019 au dramaturge belge Yann Gossens à propos de la garde de leur fille née en 2015 et qui vivait avec elle au Mali. Dans cette affaire, Rokia Traoré a été condamnée en son absence en 2023 par le tribunal de Bruxelles pour non-représentation d'enfants au père de la petite fille. C'est cette condamnation qui a entraîné son arrestation en Italie, c'était au mois de juin dernier, puis son extradition en Belgique il y a 2 semaines. La chanteuse conteste ce premier jugement et elle souhaite désormais être rejugée. Jean-Jacques Herry était au palais de justice de Bruxelles.
Vêtue d'une doudoune noire sans manches, bandeau sombre sur cheveux courts et les traits tirés, c'est d'une voix faible que Rokia Traoré s'adresse au tribunal. Le président doit même lui demander de hausser le ton. « Je n'ai aucun problème à ce qu'il y ait un procès, que l'on règle ça une bonne fois pour toutes », dit-elle, les mains menottées dans le dos. Et c'est ce que demande son avocat, un nouveau procès où l'artiste sera bien présente cette fois, contrairement à celui qu'il avait fait condamné en 2023 pour non-présentation d'enfants. Mais ce qui vient compliquer l'affaire, c'est que la musicienne vient tout juste de changer d'avocat. « Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de défendre sur le fond du dossier qui est complexe », plaide celui-ci. « Il faut que j'examine les choses, je demande une remise », c'est-à-dire un report de l'examen de cette demande à un nouveau procès. Requête acceptée par le tribunal qui a fixé cette nouvelle audience au 8 janvier. En revanche, le tribunal refuse la deuxième demande, celle de libérer Rokia Traoré d'ici là. On peut craindre un risque de soustraction à la justice belge, note le procureur. C'est la cage qui s'ouvre et l'oiseau qui s'envole, argumente l'avocat de Yann Gossens, son ancien compagnon, qui rappelle que son client n'a pas pu voir sa fille depuis plus de 5 ans et qu'à chaque fois qu'elle l'a pu, Rokia Traoré a fui, rentrant notamment au Mali après avoir été arrêté en France en 2020.
Justice, toujours 1 an de prison ferme requis contre l'opposant malien Issa Kaoundjim, connu pour ses critiques envers la junte militaire. Jugé à Bamako, il est accusé d'avoir publiquement mis en doute l'existence d'un coup d'État déjoué au Burkina Faso. Il attend le verdict fixé au 30 décembre, tandis que les autorités maliennes poursuivent leur répression contre les voix critiques dans le pays. Une semaine après le sommet de la CEDEAO, la réponse des États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il y a 8 jours, les chefs d'État de la CEDEAO ont acté le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger à compter du 29 janvier prochain, tout en instaurant un délai de 6 mois, une période de transition pour organiser ces départs de l'institution et pour permettre également la poursuite des médiations avec les militaires au pouvoir dans les 3 pays. Des militaires qui rejettent donc ces 6 mois de transition et qui accusent directement la France d'être à la manœuvre. Les précisions de Guillaume Thibault.
Affichant les armoiries des 3 pays, le communiqué lu à la télévision par le colonel Amadou, l'un des proches d'Assimi Goïta, est titré « Déclaration des chefs d'État ». Pour les leaders des juntes, le délai de 6 mois imposé par la CEDEAO est une manipulation, une tentative de déstabilisation de l'AES, téléguidée notamment par les autorités françaises.
La décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES.
S'ils fustigent la CEDEAO dans ce communiqué commun, les militaires au pouvoir ne font aucune annonce diplomatique, comme par exemple le rappel de leurs fonctionnaires qui travaillent pour l'institution, mais ils mettent l'accent sur les questions sécuritaires.
Le collège des chefs d'État de la Confédération décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale, appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes.
Alors que la CEDEAO envisageait une poursuite des médiations menées notamment par le Togo et le Sénégal, l'AES semble fermer cette porte diplomatique en dénonçant, je cite, « des manœuvres de déstabilisation initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs désidérata ».
Guillaume Thibault pour RFI. Pour aller plus loin dans ce dossier, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'invité d'Afrique Midi, Sidi Mariko. Il est chercheur au sein de l'Institut d'études et de sécurité, spécialiste des relations diplomatiques ouest-africaines. Et pour lui, les deux instances ont tout intérêt à trouver un terrain d'entente.
Ce délai supplémentaire que la CEDEAO demande, c'est peut-être pour donner plus de chances aux négociations, au dialogue. Puisqu'il y a eu déjà un précédent en 2000, on se rappelle, lorsque la Mauritanie a retiré la CEDEAO. Donc, ça n'a pas fait l'objet de toute cette discussion. Mais aujourd'hui, si nous faisons face à toute cette discussion, toutes ces manœuvres-là, ça en dit long sur l'enjeu que représentent ces trois pays-là pour la CEDEAO, pour notamment discuter sur les questions politiques et économiques, et plus précisément les questions de liberté de circulation, de taxes ou autres-là.
Les pays de l'AES ont aussi annoncé mettre leurs forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. Déjà, est-ce qu'on sait contre quelle menace ?
La menace n'est pas très claire. Donc, on peut se dire que lorsqu'ils disent qu'ils mettent les forces de défense de leur confédération en état d'alerte, c'est donc pour mettre toutes les options à table.
Pourquoi est-ce que les pays de l'AES ne vont pas plus loin ? Pourquoi est-ce qu'ils ne stoppent pas tout simplement leurs relations diplomatiques avec la CEDEAO ?
Les pays de l'AES n'auront pas intérêt à arrêter toutes les relations diplomatiques avec les États membres de la CEDEAO, puisqu'il faut le dire, tous ces trois pays-là sont des pays fondateurs de la CEDEAO. Et donc, il y a déjà une réalité géographique, historique et même anthropologique qui est là. Il suffit de vous rendre vers la frontière entre le Mali et le Burkina ou même entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour vous rendre compte combien vraiment ces pays sont interreliés. Vous allez voir que les communautés maliennes du côté du Mali, ils vendent même leur coton du côté de la Côte d'Ivoire. Et celles qui sont aussi vers le Burkina, nous avons ces mêmes situations-là. Les pays de l'AES n'ont pas intérêt à arrêter leurs relations avec les pays de la CEDEAO. Les pays aussi de la CEDEAO n'auront pas intérêt à arrêter leurs relations avec les pays de l'AES.
Oui, justement, quelle réponse est-ce qu'on pourrait imaginer de la CEDEAO, une réponse plus ferme ?
On ne peut pas trop prédire, puisqu'il s'agit de préparer cette période de transition-là, et du côté de la CEDEAO et du côté de l'AES. Mais ce qui est souhaitable quand même, ce serait de voir l'AES et une CEDEAO en train de vivre côte à côte, vraiment dans la coopération et dans l'entente. C'est en tout cas ce qui va de l'intérêt de ces deux entités, ainsi que de leur population.
L'éclairage de Sidi Mariko, chercheur à l'ISS, au micro RFI d'Arthur Ponchelet.
Lubumbashi, 98 FM.
RFI 19h à Kinshasa, 19h43 à Kinshasa. En République démocratique du Congo, depuis l'échec des négociations de Luanda dimanche dernier, le président Félix Tshisekedi a fait le tour de ses voisins. Samedi, il s'est rendu au Congo-Brazzaville, puis dimanche, il a rendu une visite éclair au président burundais Evariste Ndayishimiye, l'un de ses principaux alliés dans la région. La visite a été préparée en toute discrétion et contrairement aux habitudes, aucun média n'a été invité à couvrir l'événement. Une rencontre qui aurait porté sur la situation dans l'est de la RDC où le Burundi a déployé plusieurs bataillons de soldats en soutien à son allié congolais. Décryptage de Wely Diallo.
Le tête-à-tête entre les présidents a eu lieu au sein même de l'aéroport et a duré environ 2 heures avant que Tshisekedi ne reparte immédiatement pour la RDC. Aucun communiqué n'a été publié à l'issue de cette visite. Selon un post de la présidence de RDC sur X, elle a porté, entre autres, sur des questions de coopération bilatérale et de sécurité. Gitega est aujourd'hui le principal allié de Kinshasa dans la région des Grands Lacs. Depuis août 2023, le Burundi a déployé près d'une dizaine de bataillons dans le nord et le sud Kivu. En vertu d'un accord tenu secret, signé entre les deux chefs d'État, ces bataillons ont participé à des affrontements contre le M23, soutenu par le Rwanda. Selon des sources burundaises, ces mêmes contingents ne seraient plus actifs dans les combats depuis plusieurs mois. Alors la visite discrète de Tshisekedi aurait notamment eu pour objectif de demander à son homologue une réactivation de ses troupes afin de prêter main forte aux forces armées de la RDC qui tentent depuis quelques jours de reconquérir des secteurs aux mains du M23 dans le Nord Kivu.
Oli Diallo pour RFI. L'actualité nous emmène désormais à Madagascar, qui est sans conteste l'un des pays les plus menacés par les effets du changement climatique. Cyclones dévastateurs de plus en plus fréquents à l'est et au nord, sécheresses intenses récurrentes dans le sud, inondations meurtrières dans le centre ou encore montée des eaux sur les côtes. Comment tenter de limiter les effets de ces événements climatiques extrêmes? Sarah Teto a pu échanger avec l'une des figures de proue de la jeunesse militante et combative en matière environnementale.
En 12 ans de métier, ces deux pêcheurs ont observé des changements indéniables sur leurs côtes.
Avant, il y avait beaucoup de poissons. On capturait environ 50 à 60 kilos par jour. Ça remplissait quasiment tout le bateau.
Ces dernières années, la météo a changé. La mer est souvent très agitée, ce qui nous empêche de jeter nos filets.
Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2 ou 4 kilos.
Les gens ont d'ailleurs dû déplacer leur maison.
Pour ces pêcheurs, les impacts sont réels. Anzaradouarinirin, activiste environnementale et coordinatrice nationale de l'Alliance AIKE, encourage cependant la population malgache à ne pas se considérer uniquement comme victime, mais à agir, coûte que coûte, même à son petit niveau.
Quand on parle du changement climatique, on pense que ça se joue à une échelle qui nous dépasse, à l'échelle internationale, où on parle de politique, de financement, mais en fait, ça doit se jouer à notre échelle, puisque tout le monde est acteur.
Éduquer les enfants, les sensibiliser pour Hans, c'est la clé de voûte pour des effets positifs en chaîne.
Je suis convaincue que c'est en transmettant l'amour pour la nature à nos enfants, à nos voisins, que nous contribuons à changer les choses. Un enfant ne peut pas respecter l'environnement s'il ne sait pas nommer les animaux dans la forêt. Donc moi je dis, un des petits gestes que tu peux faire déjà, c'est éduquer ton enfant à aimer l'environnement, à aimer le fait de vivre dans un lieu qui soit salubre pour qu'ensuite, ils vont aller réclamer ça, adultes, et ça, ça va être le normal et pas ce qu'on est en train de vivre actuellement.
Mais ce que la jeune femme encourage surtout, c'est de cesser d'être défaitiste. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Allez, la fin de l'année 2024 approche à grands pas, bonne ou mauvaise nouvelle, à vous de juger. Mais c'est l'occasion, en tout cas pour RFI, de revenir sur les moments forts qui ont rythmé l'année sportive qui s'achève. Les Jeux Olympiques d'été à Paris, évidemment, ont sacré une nouvelle icône dont la victoire dépasse de très loin les rings de boxe. À 25 ans, Imane Khelif, médaillée d'or, a su transformer la haine massive reçue sur les réseaux sociaux pour ressortir comme l'une des figures sportives de l'année. Son aventure olympique racontée par Sofiane Amazian.
Au soir de son sacre au stade de Roland-Garros, les supporters algériens ont célébré toute la nuit la naissance de leur nouvelle star. Imane Khelif, 25 ans, à la boxe diablement efficace, rapide, technique et très puissante. Annoncée comme l'une des meilleures chances de médaille de la délégation algérienne, la native d'Aïn Sidi Ali traverse pourtant une période difficile. Harcelée sur Internet, une vague de messages injurieux attaque sa féminité. Une vague qui se transformera de marée quelques instants après sa victoire expéditive pour son entrée en lice face à l'italienne Angela Carini. Son passé ressurgit. L'Algérienne n'avait pas été autorisée à combattre en finale des mondiaux de 2023 en raison d'un taux de testostérone trop élevé. Au plus fort de la polémique, le CIO contre-attaque, Imane Khelif, n'enfreint aucune règle et sa participation au tournoi olympique féminin est maintenue. Dans l'œil du cyclone, la boxeuse peut compter sur des soutiens qui en font une figure de la lutte contre le cyberharcèlement. Côté ring, l'Algérienne terrasse ses adversaires une à une jusqu'à la finale à Roland-Garros. Une victoire éclatante face à la favorite, la chinoise Yang Liu. Une médaille d'or qui change une carrière et même une vie pour de bon.
Et Sofiane Amazian pour RFI.
Afrique Soir sur RFI. Guillaume Ouattara.
Et on fait le point sur l'actualité internationale de ce lundi soir. D'abord en France, un nouveau gouvernement pour François Bayrou, annoncé il y a moins d'une heure. Parmi les nominations, Jean-Noël Barrot reste en charge des affaires étrangères. Bruno Retailleau, ténor de la droite, garde quant à lui son portefeuille de l'intérieur. Un nouveau gouvernement qui marque le retour de deux anciens premiers ministres, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, et Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. La FILU appelle Israël à accélérer son retrait du sud Liban près d'un mois après l'entrée en vigueur d'une trêve fragile. Les Nations Unies demandent à l'armée israélienne de respecter l'accord de cessez-le-feu signé avec le Hezbollah. Le premier ministre libanais Najib Mikati presse Paris et Washington d'intervenir pour faire avancer le processus avant l'échéance des 60 jours. En Ukraine, 3000 soldats nord-coréens tués ou blessés à Koursk, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien affirme que des combattants nord-coréens envoyés en renfort de la Russie subissent de lourdes pertes dans cette région frontalière. Une situation qui, selon Kiev, témoigne de l'intensité des affrontements dans cette zone stratégique. À New York, aux États-Unis, Luigi Mangione, l'assassin présumé d'un patron de l'assurance santé, plaide non coupable. Il est accusé d'avoir tué Brian Thompson, le dirigeant de United Healthcare, dans un acte qualifié par la justice de terroriste. Le jeune ingénieur de 26 ans a rejeté les accusations devant la justice, un crime qui a provoqué un choc dans tout le pays et relancé les critiques contre le système d'assurance santé américain. Et puis sur le volet économique, fusion annoncée entre Honda et Nissan, un futur numéro 3 mondial de l'automobile. Les deux géants japonais entament des négociations pour unir leurs forces face au défi de la transition électrique. Ce rapprochement vise aussi à enrayer leur déclin sur le marché chinois le plus important au monde. Le reportage d'Afrique Soir, désormais, il nous emmène en République démocratique du Congo. Le 24 décembre, des milliers de chrétiens vont se rassembler pour la messe de minuit en RDC, mais en raison de la situation sécuritaire jugée précaire dans la ville de Lubumbashi, le culte du 24 ne sera pas célébré, comme le veut la tradition, à minuit, mais plutôt entre 18 et 20 heures. Et pour marquer cet événement, des chorales s'y préparent déjà depuis une dizaine de jours. Denise Maheo est allée à leur rencontre.
Dans l'enceinte de la paroisse Saint-Laurent de l'église catholique à Lubumbashi, une trentaine de chanteurs de la chorale Mwanga sont en pleine répétition. Cette chorale, qui existe depuis 32 ans, va animer la messe de Noël mardi soir. Hortense Kiboué, la présidente.
Nous chantons les 24 à 19h juste.
Alors, le répertoire que vous avez préparé, c'est des nouvelles chansons, c'est des anciennes chansons?
Bon, il y a des nouvelles et des anciennes. Normalement, nous mélangeons pour ne pas perturber aussi les chrétiens, vu que nous chantons le 24, c'est une fois par an.
La tenue des membres de la chorale Mwanga fait également partie de la célébration de la fête de la nativité de Jésus, explique encore Hortense Kiboué.
Il y a toujours eu des tenues particulières, comme là, nous allons mettre des toges de la couleur blanche et verte.
Plus loin, la chorale de l'église pentecôtiste Portée des Cieux s'apprête surtout à mettre de l'ambiance au cours du culte de la nativité. Et c'est depuis 15 jours qu'on s'y prépare. Julie Mangaza, jeune d'une vingtaine d'années, est très motivée.
Il y aura vraiment beaucoup d'ambiance, beaucoup d'actions de grâce, beaucoup de temps de louange et d'adoration. Nous chantons par exemple « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. »
En l'église méthodiste unie, une des plus grandes églises de la ville, là aussi, toutes les chorales sont en effervescence. Une dizaine de jeunes de la paroisse Jérusalem apprennent un nouveau morceau. Sa guitare à la main, le maître des chants s'assure que tout le monde maîtrise non seulement la mélodie, mais aussi les paroles. Et Stéphane, secrétaire du groupe, pense surtout à la qualité du son.
Nous avons demandé qu'on revoie la sonorisation, puisqu'on sent que maintenant il y a trop d'écho, et c'est ce qu'on veut éliminer. Que les jours de Noël, vraiment, nous puissions très bien passer cette journée sans qu'il y ait des difficultés.
Pour la plupart des choristes, chanter à la fête de la nativité est un événement à ne pas rater. Denise Mayo, Lubumbashi, RFI.
Allez, un peu de musique pour terminer cette édition d'Afrique Soir. Coup de projecteur sur le musicien sénégalais Amadeus. Alors, vous le connaissez peut-être, il était finaliste du prix RFI Découverte 2023. Eh bien, le jeune homme de 30 ans a sorti en novembre un premier album après des titres en featuring et un premier EP. Tarou Sénégal est au croisement entre Mbalax traditionnel et Afrobeats d'aujourd'hui qui cartonne sur le continent et dans le monde entier. Juliette Dubois est allée le rencontrer en studio à Dakar.
Aduna wër nga lay jital koñ ma ci jant bi so maname jot gi ma yatt ma tew bi waye ci mbékté lay mujj so ko muñé.
Voix de velours et bonnet vissé sur la tête, Saliou Samb, alias Amadeus, explique avoir choisi le titre Taharou Sénégal, beauté Sénégal en wolof, en hommage au pays qu'il aime tant, mais aussi à ses aînés.
Aux musiciens qui ont tracé la route pour nous, des gens comme Youssou N'Dour, Kumba Gawlo. Parfois, je prends dans un son le passage de Kumba Gawlo pour les rendre hommage, parce que ce sont eux qui nous ont permis d'avoir le courage de choisir la musique et qui nous ont même fait aimer la musique. Le son bercé ma tendre enfance.
Amadeus veut aussi mettre en valeur les différentes régions du pays. Pour le tournage de son premier clip, Taharou Dounia, il s'est rendu dans le ciné-salon où il a mis à contribution des lutteurs traditionnels et des femmes qui jouent de la musique sur des calebasses. Ces traditions se mêlent de sonorités plus modernes, pop et afrobeat dans l'air du temps.
J'ai choisi de chanter comme les anciens. Mais lors de la création des beats, moi je préfère faire des beats qui obéiront à certaines normes en fait. Parce que c'est ça qui me permettra d'être écouté par le Gambien, écouté par un Australien par exemple.
Et pour atteindre ce public multiculturel, Amadeus prévoit une tournée internationale en 2025 avec des dates en Italie, au Canada et en France. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et vous entendez derrière moi la chanson Aduna d'Amadeus. Je vous propose qu'on poursuive en musique la découverte de cet album, cette fois avec un autre titre qui s'appelle Les Jets. Écoutez.
Kamika nga won fuñu le gis xalaat fuñu ma gis laaj mala nga ba ma legge xollu fa jitu sa faya ñeekon ci man bokon ci sama yaram ka dem bayyi ma legge no ma wara man beug loy di ma joylo beug gi gor yalla fi la daflo no ma meuna way bu mu ñinga di ma dawlo bëgg gi gor yalla bi la dablo motax wolu na li ne ci man bëgg la wolul man wolu na li ne ci man way ma gël le wërem motax wolu na li ne ci man bëgg la wolul man wolu na li ne ci man way ma gël le wërem Le realize moy bëggel da ci gëñalé mik tek nakar fi rangé di ma fitnal ma déggé di soralé ak di xel ñaaré le may laaj man mom la modul mëna joxé limay diglé du mako jëfé am ndaysaan li nga bëggé né mëna joxé ba ma ré ma ré mësolé ñamala patam rër na ko la ko fu mu jëm da fay wër mbëggel ma sama nga ni lan mbëggel da séré Tana ba ma jomme Mama wara man beug loy di ma joylo Beug gi gor yalla fi la daflo no ma meuna way bu mu ñinga di ma dawlo Beug gi gor yalla fi la daflo mota wolu na li ne ci man Beug la wolul man wolu na li ne ci man way ma gel lay
I'm gonna get it. Vous venez d'écouter Amadeus avec son titre Legit et c'est ainsi en musique que s'achève cette première édition d'Afrique Soir. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Aurèle Charliot à la réalisation, Alexis Guilleux à la rédaction en chef. Restez avec nous sur RFI, le point sur l'actualité dans moins d'une minute avec un nouveau journal et évidemment toute l'actualité c'est sur le site internet de RFI et sur l'application mobile.
Bas les pattes. Penaï Traoré.
Après une première saison sur la place des femmes dans les sociétés africaines dans l'ère post-MeToo, je vous reviens pour une saison 2. Et cette fois-ci, je m'intéresse aux inégalités de genre, aux mécanismes de la domination masculine et plus spécifiquement aux masculinités noires. Alors, retrouvez-moi dans la saison 2 de Bas les pattes.
Bas les pattes à écouter sur toutes les plateformes de podcast et cette semaine à 17h10 TU sur RFI.